Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous sommes à peu près à la moitié, même pas, presque la moitié de cette encyclique fondamentale. Et je vous l'ai déjà expliqué, c'est certainement un des textes les plus importants du magistère de l'Église des derniers siècles. Pascendi de Saint Pie X, 1907, et le Syllabus Quantacura de Pie IX, 1864. Donc, nous avons terminé la partie un peu compliquée qui expliquait donc les trois faisceaux d'erreurs qui se réunissaient dans cet égout collecteur de toutes les hérésies et qui définit le modernisme, donc l'agnosticisme, l'immanentisme, l'évolutionnisme. Donc, ici, Saint Pédis va commencer à parler justement de la conception du moderniste pour l'Église. Comment est-ce que l'Église considère, comment plutôt que le moderniste, excusez-moi, considère-t-il l'Église? Bon. Et on va voir que c'est très clair. Le moderniste considère l'Église uniquement dans sa partie humaine et pas dans sa partie divine. Le moderniste ne considère plus du tout l'Église comme quelque chose de divin, mais comme quelque chose d'humain. Donc ils ont complètement, on va expliquer ça avec les textes de Saint Pédis, ils ont complètement inversé la pyramide d'autorité. Au lieu d'avoir une autorité qui vient de Dieu, qui ensuite qui se transmet vers la base, c'est l'inverse, c'est la base qui dirige. Bon. Donc l'esprit moderniste concernant l'Église, c'est tout simplement un esprit démocratique. C'est la démocratisation de l'Église. C'est-à-dire que on ne suit plus la vérité qui vient d'en haut, on adapte la vérité divine à ce que veulent les hommes. Donc ce sont les hommes qui vont décider ce qu'ils veulent garder de la foi catholique. Et ça, on le retrouve tout à fait aujourd'hui. Bon. Et donc, pour obtenir cela, qu'est-ce que va faire le moderniste? Le moderniste va détruire complètement les racines même du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant quoi? Donc il l'explique ici. Il y a deux consciences, disait Saint Pédis. Donc Saint Pédis, Pascendi, septembre 1907. Il y a deux consciences dans l'homme. Si l'autorité ecclésiastique ne veut pas, au plus intime des consciences, provoquer et fomenter un conflit, elle doit se plier aux formes démocratiques. Bon. Enchaînée de force, disait Saint Pédis, ces contraintes terribles seraient son explosion. Elle emporterait tout, l'Église et la religion. Telles sont en cette matière les idées des modernistes. Donc, c'est dans ces par suite le grand souci de chercher une voie de conciliation entre l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. Et il veut bien une Église à condition que ce soit une Église qui ne donne aucun ordre. Il veut bien une Église à condition que chaque membre de l'Église, à la base, soit libre de penser, de croire ce qu'il veut. En gros, c'est ça. Bon. Donc, cela va entraîner explique Saint-Pédis, cela va entraîner une séparation totale du spirituel et du temporel, donc de l'Église et de l'État. Donc l'Église et l'État vont être séparés, le spirituel va être séparé du temporel, la foi va être séparée de la science, l'autorité de l'Église va être séparée de la liberté des croyants, et le catholique va être séparé du citoyen. Voilà ce que dit, ça va très loin, voilà ce que disent les modernistes. Il ne suffit pas, à l'écoute moderniste, que l'État soit séparé de l'Église. De même que la foi doit se subordonner à la science quant aux éléments fondamentaux, phénoménaux, aussi faut-il que dans les affaires temporelles, l'Église s'assujettisse à l'État. Non seulement il demande la séparation de l'Église et de l'État, mais il demande la soumission de l'Église à l'État. Voilà ce qu'il demande. De même donc que la foi et la science sont étrangères l'une à l'autre, dit Saint-Pédis, à raison de la diversité des objets, de même pour le modernisme, l'Église et l'État, à raison de la diversité des fins spirituelles pour l'Église, temporelles pour l'État, sont séparées. Donc ils font séparer la foi et la science, l'Église et l'État. Il est évident que si on arrive à obtenir la séparation de l'Église et de l'État, c'est la destruction totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ça permet aux citoyens de se mouvoir dans le bien, dans le vrai. Si on supprime le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus possible pour le citoyen de se mouvoir dans le bien, et donc le citoyen se damne. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il est intéressant ici de voir que le pape Saint-Pédis va faire référence à une bulle du pape Pie VI de 1794. Donc une bulle assez ancienne, et vous allez voir, c'est très intéressant. Pie VI, et c'était le pape de la Révolution française, pendant la Révolution française, juste avant Napoléon Ier. Donc cette bulle s'appelle Auctorem Fidei, elle date de 1794 et a été écrite par le pape Pie VI contre le concile de Pistoia. Et c'est très intéressant de voir que toutes ces idées condamné par Saint-Pédis, était déjà enseigné par les ennemis de l'Église en 1794. Donc non seulement Saint-Pédis condamne en 1907 ces modernistes, mais ces idées modernistes venaient déjà elles-mêmes d'erreurs beaucoup plus anciennes qui étaient en fin de compte une conséquence directe du protestantisme. Vous voyez ? Donc, comme Saint-Pédis condamne par ses propos tout l'enseignement dans son intégralité du Vatican II, on voit très bien que dès 1794, donc en plein triomphe de la philosophie des Lumières, déjà à cette époque, les idées du Vatican II de 2024 étaient condamnées, en quelque sorte, dans l'œuf dès 1794, et même avant. Vous voyez ? Oui, on voit très bien d'où viennent toutes ces idées. J'ai déjà expliqué avant, donc je n'y reviens pas. Mais 1794, c'est l'application des idées de 1717. 1717, c'est quoi ? 1717, c'est la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie, qui est elle-même une fille du protestantisme, protestantisme qui est lui-même un fils du naturalisme, si vous voulez, de l'humanisme du XIVe siècle. Donc, l'humanisme du XIVe siècle, ça c'est juste après la mort de Saint Thomas d'Aquin, 1274. Donc nous avons l'humanisme, la Renaissance et l'humanisme, c'est la même chose. La Renaissance du XIVe siècle va entraîner le protestantisme. Le protestantisme, c'est 1517. Le protestantisme va entraîner la franc-maçonnerie, 1717. Et la franc-maçonnerie créée en Angleterre va immédiatement passer la Manche pour venir en France et créer la révolution de 1789 après avoir créé la révolution de 1776 aux États-Unis. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont les mêmes idées, toujours les mêmes idées. Et donc le pape Pie VI va condamner déjà ces idées. C'est très intéressant, je ne vais pas reprendre toute l'encyclique, ce serait trop long. très intéressant de voir que ces idées condamnées donc par le pape Pie VI sont exactement les idées du Vatican II. Je vais vous donner quelques exemples. Encore une fois, je ne peux pas tout reprendre parce que je risque de sortir un peu trop du sujet. Je voudrais rester dans le sujet du modernisme. Ici, le pape dit, au numéro 29 dans l'édition que je suis de Pachendi, les principes dont toutes ces doctrines dérivent ont été solennellement condamnés par le pape Paul Pie VI, notre prédécesseur, dans sa constitution Auctorem Fidei, donc du 28 août 1794. Voilà ici ce que condamne le pape Saint-Pie X. Bon. Le pape Pie VI, et qui est repris par Saint-Pie X. Donc Saint-Pie X fait sienne les condamnations de Pie VI. On voit très bien, c'est ça qui est très intéressant dans les papes, les vrais papes, c'est qu'ils reprennent le système de la tuile, si vous voulez. Mes prédécesseurs ont dit que je reprends ce qu'ont dit mes prédécesseurs et j'ajoute quelque chose pour cadrer avec la situation qui est la mienne aujourd'hui. Bon, le pape suivant va revenir en disant, comme le premier prédécesseur a dit, le deuxième prédécesseur a dit, moi j'arrive troisième dans troisième niveau, et je reprends tout ce qui ont été dit par les deux premiers prédécesseurs, et je rajoute ce qui correspond à mon temps actuel. Mais aucune opposition. Jamais, jamais on voit dans un texte de l'Église un pape qui dit le contraire de ce qu'un autre pape a dit. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans l'Église, sauf avec Vatican II. Alors voilà ici, je vais reprendre, je vais résumer si vous voulez, le texte Auctorem Fidei en 11 propositions. Vous allez voir que c'est très intéressant parce que ça montre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est toujours les mêmes bêtises, toujours les mêmes bêtises. Bon. Bon, premièrement, le pape va condamner ceux qui disent que le pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique, c'est-à-dire du gouvernement de l'Église et le pouvoir de sanctification par le ministère ecclésiastique découle de la communauté des fidèles et des pasteurs. Donc, dès 1794, il y avait déjà des gens qui disaient, qui prétendaient que le pouvoir est attribué à la communauté de l'Église pour être communiqué aux pasteurs. C'est-à-dire que c'est la communauté de l'Église, les catholiques ensemble, qui vont transmettre en quelque sorte à leur pasteur leur autorité qui vient du nombre. Donc l'autorité ne vient plus d'en haut de Dieu, l'autorité vient du nombre. Elle est transmise au pasteur. Ça, c'est du pur protestantisme. Voilà. Donc, cette proposition, dit le pape Pie VI, qui établit que le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église pour qu'il soit communiqué aux pasteurs, qui sont ses ministres pour le salut des âmes, est une proposition hérétique si on l'entend en ce sens que le pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique découle de la communauté des fidèles et des pasteurs. Bon. Il est évident que si ce pouvoir vient de Dieu, à ce moment c'est catholique, mais si le pouvoir ne vient plus de Dieu, mais vient de la communauté des fidèles et sur les pasteurs, c'est-à-dire que la communauté des fidèles, c'est le pouvoir du nombre. On retrouve exactement l'esprit démocratique des Lumières. C'est-à-dire, le nombre fait la vérité. Donc, au lieu de savoir qu'est-ce que dit Dieu par le pape, par les papes qui m'ont précédé, les modernes de leur temps, déjà 1794, qui va être repris après par les modernistes et après repris par les archi-modernistes de 2024, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont toujours dire la même chose, c'est-à-dire que c'est la communauté des fidèles qui donne aux pasteurs le pouvoir de diriger les fidèles. Ça veut dire que j'accepte le pouvoir de l'autorité qui est au-dessus de moi à condition qu'elle me plaise. Et ça, on a vu tout à fait ça dans le synode d'octobre 2023. Vous voyez? Où ce sont les fidèles qui disent à la communauté, aux évêques et aux chefs des évêques, le pape, qui vont dire au pape et aux évêques, voilà ce que nous voulons. Et donc, les évêques assurent ensuite en discutant entre eux et vont faire redescendre ça vers la base, mais tout vient de la base. Pour un catholique, au contraire, tout vient de Dieu, pas de la base. Vous voyez? Donc, première condamnation, ceux qui prétendent que le pouvoir du ministère, le pouvoir du gouvernement ecclésiastique découle de la propre communauté des fidèles, et le pape insiste, dit que cette proposition est hérétique. Bon. Deuxième proposition. La proposition qui déclare, donc cette proposition, c'est la dénomination du chef ministériel attribué au pontife romain. La proposition qui déclare, j'ai dit la proposition, alors c'est un peu compliqué parce que c'est des idées, en quelque sorte. C'est une condamnation donc d'une chose mauvaise. Donc il commence par citer la chose mauvaise, on ne sait plus très bien où on en est. Ça, j'ai bien voulu expliquer. La proposition qui déclare que le pontife romain, c'est le pape, qui déclare que le pape est le chef ministériel de l'hérétique, le chef ministériel de l'Église est hérétique, si l'on veut dire que le pontife reçoit de l'Église son pouvoir de ministère et non point du Christ en la personne du bienheureux Pierre, en tant que successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l'Église tout entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape, ici, condamne ceux qui prétendent que le pontife romain reçoit de l'Église son autorité. Alors qu'en fait, le pape ne reçoit pas de l'Église son pouvoir de ministère, mais reçoit son pouvoir de ministère du Christ. C'est le Christ qui donne au pape son autorité. C'est pas l'Église. C'est pas l'Église qui est infaillible. C'est le pape qui est infaillible. Et c'est extrêmement important. Quand on dit que le pape reçoit son autorité de l'Église. L'Église, c'est en quelque sorte un gros sac dans lequel on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. L'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Donc, si le pape reçoit son autorité de l'Église, il va donc recevoir son autorité de la congrégation des fidèles qui sont baptisés. Comme si cette autorité venait des fidèles qui transférerait cette autorité, qui est la leur, à une personne déterminée. Sous-entendu, là, on retrouve les idées de la Révolution, les idées de la démocratie d'aujourd'hui, puisque l'autorité du pape vient des fidèles, les fidèles ont transmis leur autorité, une partie de leur autorité des fidèles au pape, donc ils peuvent la retirer quand ils veulent. Et si le pape fait quelque chose qui ne me plaît pas, je lui enlève son autorité, et il perd son autorité. C'est exactement les principes de la démocratie d'aujourd'hui. D'accord ? Vous voyez, on va retrouver évidemment derrière toutes ces idées le protestantisme. Hein. C'est à fond le protestantisme. N'oubliez pas que le protestantisme n'accepte pas l'autorité du pape. Le protestantisme n'accepte pas l'autorité du prêtre. Ils n'ont même pas de sacerdoce. Ils ont un pasteur. Leur pasteur, dans le sens protestant du terme, c'est simplement un délégué des fidèles, point final. Et on voit très bien dans l'Église moderne où le curé ne devient n'est que le délégué des fidèles. Il représente les fidèles, si vous voulez. Et donc, si les fidèles ne sont pas d'accord avec leur curé, ils lui disent, ouais, on n'est pas d'accord avec ça, il faut suivre ce qu'on veut. Et on voit très bien dans l'Église moderne, les curés qui ont de plus en plus de problèmes avec la congrégation des fidèles, qui font des réunions derrière leur dos, disant, voilà ce qu'on veut, on veut telle et telle chose. C'est nous qui allons décider ce qui va être acceptable pour l'Église catholique. Oui, l'idée d'une autorité qui vient de Dieu a complètement disparu. Et ça, c'est 1794. Donc ces idées démocratiques, appelez ça comme vous voulez, ces idées démocratiques existaient déjà à la fin du XVIIIe siècle. Et 1794, c'est quand? C'est juste après la Révolution française. Et c'est ce qui s'est passé avec la Révolution française. Avec la Révolution française, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le tiers-État qui a pris autorité sur le roi, en disant, maintenant, c'est nous qui commandons, et c'est nous qui allons vous dire ce que vous devez faire. Vous ne devenez qu'un exécutant du tiers-État.
C'est les bourgeois aussi.
Voilà. Enfin, oui, mais c'est le tiers-État, si vous voulez, en gros, ça représente le peuple. C'est ça. Donc, c'est le nom qui décide ce qu'on va faire. Et ça, on le voit avec Vatican II. Le Vatican II, c'est ça, tout le temps. On voit très bien ça avec le synode d'octobre 2023. C'est le nom qui décide. La vérité n'est plus quelque chose qui existe par elle-même, la vérité devient quelque chose de totalement subjectif.
Et le nom, pas forcément catholique, il y a beaucoup de protestants.
Mais oui, mais c'est le nom, c'est-à-dire l'idée d'un chef qui dirige, d'un roi qui dirige, d'un dieu qui dirige, a complètement disparu. Donc nous voulons... en gros, c'est ce qu'ils demandaient déjà dans l'Ancien Testament, les Juifs que demandaient tout le temps ça à leurs prophètes. Donnez-nous des chefs qui nous plaisent. Donnez-nous des chefs qui nous disent des choses agréables à entendre. Parce qu'évidemment, quand Moïse parlait aux Hébreux, il n'y avait pas que de la cuillère. Bon. Alors, ces messieurs, les Juifs, voulaient absolument avoir des chefs qui leur disent des choses gentilles. Expliquez-nous, donnez-nous des choses qui nous plaisent. Et surtout pas des choses qui ne nous plaisent pas. Vous voyez ? Donc là, on retrouve complètement l'histoire du protestantisme, le protestantisme le plus abject, si vous voulez. L'autorité ne vient plus de Saint-Pierre, qui transmet son autorité à ceux qui vont lui succéder. Saint-Pierre, donc le pape, n'est plus du tout vicaire du Christ et chef de l'Église tout entière, mais cette autorité vient, au contraire, de l'Église elle-même. Alors que l'autorité vient du Christ qui transmet son autorité à Saint-Pierre. Donc, prenez l'exemple avec les apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas réuni tous les apôtres et a dit aux apôtres, vous avez autorité pour diriger l'Église. Il n'a pas du tout dit ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi Saint-Pierre. Il a sorti du groupe. On le voit très bien après la deuxième pêche miraculeuse, après la résurrection. Il va sortir Saint-Pierre du groupe. Et trois fois, il va lui demander, Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Et trois fois, il va lui demander pour réparer le triple reniement de Saint-Pierre. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va dire notre Seigneur Saint-Pierre, c'est P-A-I-S du verbe paître, paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est à ce moment-là que Saint-Pierre devient chef de l'Église. Ce n'est pas les apôtres qui sont chefs de l'Église, c'est Saint-Pierre. Et en faisant ce que fait actuellement Bergoglio, on le voit, c'est très très clair chez lui, maintenant il ne se cache même plus, il s'efface en quelque sorte devant l'autorité des évêques. Il va s'effacer devant les conférences épiscopales, c'est clair et net. Les conférences épiscopales demandent par exemple l'ordination des femmes, demandent les conférences épiscopales dans certains pays d'Europe ou même des États-Unis, demandent maintenant par exemple la dépénalisation de l'avortement, la dépénalisation du divorce, toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que va faire celui qui se prétend pape, Bergoglio à Rome ? Il ne va pas dire qu'il n'est pas d'accord, mais il va donner aux conférences épiscopales le pouvoir de décider, alors que c'est lui qui est autorité. Le pape seul est infaillible. Infaillible dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, lorsqu'en tant que pape, il répète ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Lorsqu'en tant que pape, il enseigne sur la foi et les mœurs une doctrine obligatoire pour toute l'Église et qui doit être tenue par toute l'Église. Et ça, c'est des choses, une façon de procéder qui a complètement détruit l'Église. L'autorité ne vient plus d'en haut, l'autorité vient d'en bas.
Et les conférences œcuméniques, elles sont...
Bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Imaginez une famille, dans laquelle une famille nombreuse, dans laquelle les enfants se réunissent en disant, voilà ce qu'on veut dans la famille. Et disent ça au père. Voilà, c'est vous le père, c'est vous la mère, vous êtes les parents, nous on veut ça, 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 ça et ça. D'abord, on est 10 enfants dans la famille, on a 10 voix, vous avez 2 voix. Donc il y a 10 voix contre 2 voix, c'est nous qui dirigeons. Vous voyez ? Et ça, on le voit dans l'esprit démocratique actuel. La démocratie est une horreur sur le plan politique, parce que la démocratie va mettre tout le monde sur le même niveau. En matière politique, par exemple, la démocratie va donner à un gamin qui commence sa vie professionnelle à 18 ans, derrière un balai, en train de bailler l'atelier, va donner à ce gamin qui ne connaît rien à sa profession future, qu'il est en train de commencer à apprendre, la même autorité que le patron qui a 50 ans d'expérience. Dans les usines, on voudrait donner exactement la même autorité aux ouvriers qu'au patron de l'usine. Oui, et ça, c'est une ineptie complète. On voit très bien, au Moyen-Âge, ils avaient du bon sens. Qui est-ce qui avait droit de vote ? N'avait droit de vote au Moyen-Âge que les gens qui avaient autorité. Donc les pères de famille avaient droit de vote. Oui, les pères de famille avaient droit de vote. Et ceux qui n'avaient pas terminé leur formation professionnelle, qui avaient fait leur tour de France complet, qui avaient présenté leur chef-d'œuvre, qui avaient été acceptés par la corporation, n'avaient strictement rien à dire. Une fois qu'ils étaient passés maîtres dans leur art, qu'ils connaissaient leur fonction, leur métier, à ce moment-là, ils avaient quelque chose à dire, mais pas avant. Vous voyez ? Il y avait encore ça, par exemple, encore dans l'armée, il y a encore 50 ans, maintenant c'est fini. Par exemple, un élève officier à Saint-Cyr ou à Saint-Maxent, un élève officier n'avait pas le droit de se marier. Il était en formation. Il n'avait pas le droit de se marier, il était en formation et il ne pouvait se marier qu'une fois à être sorti de l'école. Pas pendant sa période de formation. Alors, ces idées-là sont complètement disparues aujourd'hui parce que les gens nous disent, mais les gens sont libres. On est libre de faire ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que l'obéissance devient tellement compliquée dans le monde moderne. L'obéissance devient tellement compliquée dans le monde moderne parce que, justement, les gens croient que l'obéissance au supérieur n'existe plus et que ce sont les inférieurs qui imposent aux supérieurs leur conviction, leur conception de la vie. Vous voyez ? Donc, première condamnation. La communauté des fidèles va nommer les pasteurs, condamnés par l'Église comme hérétiques. Deuxième condamnation, c'est l'Église qui va donner au pape son pouvoir, alors que c'est le Christ, en la personne du bienheureux Pierre, successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l'Église, c'est le Christ lui-même qui va donner son pouvoir au pape. Troisième condamnation. Non, on l'a pas encore vu. Attends, je vais l'expliquer maintenant. Vous voyez? Donc, on continue d'avancer dans ces condamnations de Pie VI. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que Saint Pie justement cite Auctorem Fidei, donc Pie VI 1794, parce que Pie VI dit exactement la même chose que Saint Pie. Saint Pie reprend les condamnations anciennes pour continuer le même système de condamnation. Et on voit très bien avec l'arrivée du modernisme officiellement en pleine rue en 1958, après la mort du pape Pie XII, il y a un changement de paradigme complet. Les papes ne vont plus dire, ceux qui se prétendent tels, ne vont plus dire, comme nos prédécesseurs ont dit, nous continuons le même discours qui a déjà été celui de nos prédécesseurs. Plus du tout. Qu'est-ce qu'ils racontent? L'Église commence à Vatican II, point barre. Et tout ce qui s'est passé avant, ça ne nous intéresse plus. Et ça, c'est l'enseignement moderne, c'est l'enseignement de Vatican II. L'Église commence en 1965, fin de Vatican II. De même qu'en histoire, dans les universités et les écoles modernes de la République, ils enseignent tout le temps, l'histoire de France commence en 1789, et avant, ça n'intéresse personne. Vous voyez ? Et donc, il est capital de comprendre ces choses-là. Ce n'est pas l'Église qui est infaillible, c'est le pape. Ce n'est pas la communauté ecclésiale qui est infaillible, c'est le pape. Et le pape ne tient pas son autorité de la communauté ecclésiale, le pape reçoit son autorité du Christ lui-même. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les forces du mal ne prévaudront point contre toi. Donc, parce que tu es pierre, tu vas paître mes agneaux et mes brebis. Les agneaux et les brebis, ça représente justement les fidèles. Donc c'est le pape qui reçoit du Christ l'autorité de paître, c'est-à-dire de garder la communauté ecclésiale, de garder les catholiques dans les bons, les champs sans, qui ne sont pas empoisonnés par les herbes amères, les herbes, les poisons, si vous voulez, qui va garder les brebis sur le bon chemin. D'accord ? Ensuite, le pape Pie VI va condamner ceux qui prétendent que ce serait un abus d'étendre l'autorité de l'Église au-delà des bornes de la doctrine et des mœurs et de l'étendre aussi aux choses extérieures et d'exiger par la force ce qui dépend de la persuasion du cœur et aussi de prétendre exiger par une contrainte extérieure la soumission à ses décisions. Et le pape Pie VI explique que cette proposition est hérétique en tant que par ces termes indéterminés, étendre aux choses extérieures, on caractérise comme un abus de l'autorité de l'Église l'usage de cette autorité reçue de Dieu dont ont usé les apôtres eux-mêmes pour établir et sanctionner la discipline extérieure. Et l'Église condamne ici ceux qui prétendent que l'Église n'a autorité que pour le fort interne et pas pour le fort externe. Qu'est-ce que c'est que le fort interne? Le fort interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos âmes. Bon. Donc l'Église pour eux n'a autorité que sur les choses. Je reprends un peu ma phrase pour mieux m'expliquer ce que je veux dire. L'Église n'a autorité d'après eux que sur les choses spirituelles. L'Église n'a plus aucune autorité dans le domaine temporel. Bon. Et ça, c'est condamné, condamné par l'Église. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, pour ces gens-là, ces protestants-là, l'Église n'a autorité, non seulement que dans le spirituel, mais que dans le spirituel privé. Et l'Église n'a aucune autorité pour agir sur les choses extérieures. Et ça, encore une fois, qu'est-ce qui est condamné là ? C'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, prétend, avec raison, avoir une autorité sur les choses extérieures. C'est pour ça que l'Église a toujours, par exemple, consacré, d'une certaine façon, les rois du Moyen-Âge. Les rois du Moyen-Âge, les empereurs du Moyen-Âge, étaient consacrés par l'Église. Saint-Louis était consacré. Parce qu'ils avaient une autorité, pas simplement sur les choses purement sur la construction des églises en union avec les évêques. Ils avaient aussi une autorité dans le domaine temporel. À l'époque, n'oubliez pas que les papes avaient un domaine temporel pour justement garantir leur indépendance. Donc, cette proposition condamne ceux qui prétendent que l'Église n'a d'autorité que sur le spirituel d'ordre privé, mais absolument pas dans le domaine extérieur. D'accord ? Or, prenons un exemple, c'est comprendre avec un exemple. L'Église aurait le droit de dire, d'après ces modernistes de l'époque, donc ces protestants, l'Église aurait le droit de condamner par exemple la pornographie dans le domaine privé. Et même de dire qu'un jeune ou un moins jeune qui se vautre dans la pornographie commet une faute grave contre la pureté. Parce que là, c'est du domaine privé. Mais l'Église, d'après eux, n'aurait pas du tout le droit de condamner la pornographie dans le domaine politique ou dans le domaine public. Vous voyez ? Or, l'Église catholique a un pouvoir, justement, dans le domaine public. C'est ce qu'on appelle précisément le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire règne social. Règne social, ça veut dire qu'il y a un pouvoir de l'Église sur la société. Ça, c'est nié complètement par les modernes. Ils posent des cris de putois dès qu'on leur en parle. Ils n'admettent pas ça. Ils n'admettent pas ça. Parce que pour eux, c'est domaine purement privé. Domaine purement privé. Prenez des exemples même plus faibles encore que ça. Prenez les vices contre nature, l'homosexualité, toutes ces horreurs. Bon. L'Église catholique, d'après eux, n'aurait le droit de condamner l'homosexualité que dans le cadre du catéchisme. Effectivement, c'est condamné dans le catéchisme comme un crime qui crie vengeance contre le ciel. Mais, d'après eux, l'Église catholique n'aurait absolument rien le droit de dire pour empêcher le développement de l'homosexualité dans la sphère publique. Parce que ces gens-là vont vous dire, l'Église, les gens sont libres. Bon. Et en fait, au Moyen-Âge, on voit très bien qu'il est beaucoup plus proche de la perfection qu'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passait ? L'Église ne pouvait pas aller regarder ce qui se passait dans chaque maison. Et donc quelqu'un qui était un homosexuel, qui pratiquait son homosexualité dans le secret, dans l'alcôve de sa maison, personne n'était au courant à l'extérieur, l'Église y fichait la pied, parce qu'elle ne pouvait pas être constamment en train de contrôler ces choses-là. Mais dès que cette personne prétendait vouloir imposer sa promiscuité, ses libertés contre nature sexuelle, liberté sexuelle contre nature, à l'extérieur, là l'Église intervenait. Là, l'Église intervenait, et ces gens-là étaient remis au pouvoir séculier, et le pouvoir séculier de l'époque, qui avait compris parfaitement toutes ces choses-là, comment était traité un homosexuel qui restait de façon parfaitement, qui pratiquait son homosexualité de façon purement privée. L'Église lui fichait la paix, en lui disant, en gros, vous voulez aller en enfer, allez-y. Vous y allez tout seul. D'accord ? Vous n'allez pas commencer à faire de la publicité pour votre truc, parce que si vous faites de la publicité pour votre truc, vous allez commencer à envoyer les âmes en enfer. Ça, pas question. Vous allez en enfer, vous y allez. Tout seul. Vous n'aurez personne avec vous. Vous voyez ? Et si cette personne commençait à vouloir prêcher publiquement son homosexualité, qu'est-ce que faisait l'Église de l'époque ? Elle remettait cette personne au bras séculier. Et le bras séculier, à ce moment-là, appliquait les lois du pays pour protéger le pays. Vous voyez, les lois du pays, à ce moment-là, ils n'avaient pas que de la cuillère. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Des gens comme ça, t'es condamné à mort tout de suite. J'ai arrêté de brûler. Je dors pour protéger le pays. De même, si vous les prenons un exemple, tout ça, vous allez comprendre avec un exemple. Parce que quand on explique ces choses-là aujourd'hui, les gens disent, mais c'est quand même trop fort, on n'est pas con, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Imaginez un berger qui a 100 brebis, puis il y en a une qui a la gale. Il y en a une qui commence à donner les signes de la gale. Bon, et donc le berger a repéré la brebis qui a la gale, il la sépare du troupeau immédiatement pour empêcher la contamination, et il va tout faire pour empêcher cette gale de se développer sur cette brebis, pour essayer de sauver la brebis aussi. Il va sauver tout le troupeau, y compris la brebis qui a la gale. S'il se rend compte qu'il ne peut pas sauver la brebis galeuse, je dirais qu'il va supprimer cette brebis galeuse pour sauver tout le troupeau. Il ne viendrait pas à l'idée, le monde moderne, qu'est-ce qu'il est, le monde moderne va dire, moi je suis libre d'avoir la gale et je suis libre de rester dans le troupeau pour transmettre la gale à tous ceux qui veulent me toucher parce que je suis libre et les gens sont libres. Non, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté dans ce domaine. On n'a pas de liberté. Vous voyez ? Et un homosexuel qui pratique son homosexualité, pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a la gale et qui va transmettre sa gale au monde entier. Et on le voit, c'est exactement ce qui se passe actuellement. On arrive maintenant à avoir les derniers chiffres que j'ai eu en main dans les universités californiennes aux États-Unis. Il y a pratiquement 20-25% des jeunes qui maintenant se prétendent plus ou moins homosexuels. Alors qu'avant, je dirais, au Moyen-Âge, il y avait des homosexuels. Il y avait des homosexuels. Mais ils se cachaient. Ils allaient en pleine rue dévoiler leur homosexualité. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le système révolutionnaire? C'est que justement, tous ces gens-là qui ont des vices honteux contre, on appelle ça le vice honteux, c'est pas pour rien, contre nature, on leur a dit, sortez de vos cachettes. Commencez à dévoiler à tout le monde que vous êtes comme ça. C'est pour ça, alors coming out, c'est le mot qu'ils utilisent même en France. Telle grande vedette de cinéma a fait son coming out. Telle personne qui se présente pour devenir premier ministre a fait son coming out. Qu'elle est courageuse de dévoiler qu'elle est homosexuelle ou lesbienne. Mais attendez. Des gens comme ça, c'est des gens, puisque l'homosexualité est un crime contre nature, crime vengeance contre le ciel. Si quelqu'un a un problème d'homosexualité comme ça, il faut l'aider. Et ça, c'est très important à expliquer aux gens. Parce que souvent, on pose cette question. Mais monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous diriez à votre fils qui va vous annoncer un jour qu'il est devenu homosexuel? Ou qu'il a décidé à 21 ans de changer de sexe et de devenir une petite fille? Qu'est-ce que vous diriez? Et je réponds toujours de la même façon. Parce qu'il voudrait entendre dire, je respecterai, c'est ce que dirait le monde moderne, je respecte les convictions intimes de ces personnes. Imaginez quelqu'un, prenons un autre exemple pour vous faire comprendre. Imaginez quelqu'un qui a pris l'habitude, parce que ça correspond à sa nature, de boire 5 litres de whisky tous les soirs. Bon, et puis il chante à tue-tête toute la nuit, il est complètement ivre. Bon, est-ce qu'il est libre de boire 5 litres de whisky tous les soirs? Est-ce que, imaginez que mon fils vient de me dire, voilà papa, je voulais que tu saches que j'ai une nature de poivreau, je suis devenu un poivreau fini, et je bois 5 litres de whisky tous les soirs. Et je te demande de respecter ça, parce que ça correspond à ma nature. Qu'est-ce qu'il va faire le père? Le père qui aime son fils, il va tout faire pour sortir le fils de son problème d'ordre médical. Il a un problème d'ordre médical, il est attiré par la boisson de façon absolument ahurissante, il boit 5 litres de whisky tous les soirs. J'ai pas laissé mon fils que j'aime profondément se saouler comme ça à longueur de soirée. Donc je vais tout faire pour le sortir de là, pour l'aider à se sortir de ce vice. Et j'ai posé que j'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer ce fils qui veut pas se soigner de ses frères et sœurs, pour qu'ils n'aient pas de mauvaise influence sur lui. Imaginez dans une famille catholique, parce que ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps aujourd'hui, malheureusement. Les familles nous en parlent tout le temps. Imaginez une famille de 5, 6, 8 enfants, et puis un beau jour, l'aîné de la famille, un gamin de 25 ans, bon, vient dire à ses parents, voilà maman, je voulais que tu saches, voilà papa, je voulais que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, je me mets en ménage et je me mets en concubinage avec telle jeune fille. Et puisque je suis libre, je vous demande de respecter ça. Et donc maintenant, puisque je vis encore à la maison, tous les soirs, j'amène ma petite amie avec moi, et dans la même chambre que moi. Qu'est-ce que doivent faire les parents? Est-ce qu'ils doivent dire, est-ce que les parents, imaginez les parents qui vont dire à leur gamin, tu es libre de faire ce que tu veux, on n'a rien à dire. Ces parents sont des assassins. Qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? Les parents vont dire, attention, si tu veux te donner, encore même exemple, si tu veux te donner, tu te donnes tout seul, mais tu as des frères et sœurs. Il n'est pas question qu'on donne, on te laisse donner le mauvais exemple aux frères et sœurs et que tu contamines tous les frères et sœurs. Et donc les parents, dans un cas comme ça, vont mettre le gamin à la porte parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne font rien, ils vont être responsables de la destruction de la moralité de toute la famille. Vous voyez? Alors attention, encore une fois, les gens vont le dire, même sur l'abbé, vous n'avez plus le droit de dire ces choses-là aujourd'hui dans le monde moderne. Non, mais dans le monde moderne, que ça nous plaise ou non, l'homosexualité reste un crime contre nature. C'est pas moi qui le dis. C'est pas mon opinion personnelle, c'est l'opinion de l'Église catholique. C'est un crime qui crie vengeance contre le ciel, comme l'avortement. Bon, l'avortement est un crime qui crie vengeance contre le ciel. L'homosexualité, je pense, pratiquée, est un crime qui crie vengeance contre le ciel. Bon. Mais si quelqu'un vient me voir en confessionnal et me dit, voilà, monsieur l'abbé, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, et je commence à avoir des fortes tentations contre nature. Je commence à me rendre compte que je ne suis pas du tout attiré par... je suis un homme, biologiquement un homme, mais je ne suis pas du tout attiré par les femmes. Je suis attiré par les gens du même sexe que moi. Je l'avais dit, moi. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais l'aider, ce pauvre garçon. Mais je ne vais pas l'aider en lui disant, fais ce que tu veux. Je vais lui dire, il y a dans votre nature quelque chose de mauvais. Ce caractère mauvais qui est dans votre nature, c'est une conséquence du péché originel. De même qu'il y a des gens qui ont des tentations de boire à partir de 15 ans, ils boivent comme des trous parce qu'ils vivent dans un milieu d'habillés, un milieu même familial où il y a beaucoup d'ivresse, et bien ils sont en train de tomber dans le panneau. Il y a d'autres gens qui ont des problèmes de drogue, d'autres gens qui ont des problèmes de vol, je ne sais pas quoi. On va jamais laisser faire des choses comme ça. On aide ces personnes à s'en tirer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, écoutez, merci de m'en parler, ça prouve que vous faites confiance, je vais essayer de vous aider. Donc, première chose à faire, c'est empêcher cette fissure qui est dans la paroi de protection autour de votre âme de se monter. Il faut combattre cette fissure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous sortir des influences délétères qui vous poussent dans ce genre de problème. Donc, il faut que vous évitiez, comme la peste, les bars homosexuels, que vous évitiez comme la peste les gens qui ont ce même problème pour pouvoir vous protéger. Et moi, je vais vous aider en tant que prêtre, un certain nombre de conseils en tant que prêtre, pour vous aider à sortir de ces tentations contre nature. Un premier conseil que je vais donner à ces personnes-là, c'est par exemple de se confesser extrêmement souvent. Je dis, puisque vous passez devant le prieuré régulièrement, confessez-vous, n'hésitez pas à vous confesser tous les jours pendant un certain temps. Pour aller à couper complètement ces miasmes, ces racines, si vous voulez, qui vous poussent vers le péché. Imaginez quelqu'un qui a un problème de boisson, c'est la même chose. Je vais dire, écoutez, je vais vous aider à vous en tirer, mais il faut pour ça que vous preniez certains moyens. Il n'est pas question que vous regardiez de l'alcool chez vous. Parce que si vous gardez l'alcool chez vous, vous êtes tenté de le boire. Donc il faut supprimer tout ça, il faut supprimer les relations avec des gens qui ont le même problème que vous, il faut supprimer toutes les tentations de ce genre, en supprimant les occasions prochaines volontaires de péché. On va aider ces pauvres gens. Moi, j'ai connu, dans mon apostolat en 45 ans de sacerdoce, j'ai connu des âmes magnifiques qui étaient homosexuelles, en fait. Mais qui se battaient, qui se confessaient très souvent, qui faisaient très attention d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave dans ce domaine, et qui arrivaient à vivre en état de grâce. Et d'ailleurs, il faut bien avouer ce qui est, ils ont beaucoup de mérite, parce qu'ils ne peuvent plus en faire. Ils ne peuvent pas envisager le mariage, parce qu'évidemment, avec des vices contre nature de ce genre, pas question d'envisager le mariage. Ils ne peuvent pas envisager la vie religieuse, parce qu'en vie religieuse, il n'est pas question qu'on accepte des gens qui ont ce genre de vices, ou tentations internes. Et donc, les séminaires leur sont fermés, la vie religieuse lui est fermée, et le mariage lui est fermé. Il va être obligé de rester seul toute sa vie. Mais c'est pas pour ça que je vais craquer une allumette pour brûler vif. Bien sûr que non. Je vais essayer de l'aider pour qu'il arrive à s'en tirer. Vous voyez ? Et ça, c'est des choses qu'on a un mal fou à expliquer. Parce que les gens sont pétris de liberté. Pétris de liberté. Libéralisme, libéralisme, liberté. Liberté, liberté, liberté chérie. Voilà, ils parlent de liberté à longueur de journée. Attention ! Attention, on ne peut pas justement donner cette liberté. Alors quand les gens ne comprennent pas, je donne un autre exemple. Imaginez votre fils qui voulait vous dire « Je suis devenu un homosexuel, je suis devenu un poivreau invétéré parce que je bois 5 litres de whisky tous les soirs. » Imaginez votre fils qui vous dit « Je suis devenu un voleur invétéré. Je suis devenu un voleur invétéré et je vole tout le temps, je suis kleptomane, je vole les portefeuilles. » Je vole des gens autour de moi et j'arrive pas à me contrôler. Et papa, je vous demande de respecter cette tendance naturelle en moi. Parce que j'ai une tendance naturelle de prendre le bien du prochain. Qu'est-ce que répond le père? Le père va dire, un commandement qui dit tu ne voleras pas, et un autre qui dit tu ne désireras pas le bien du prochain. D'accord? Le père va aider cette personne. Mais il ne va pas aider son fils à continuer de devenir un voleur. Il va au contraire aider son fils à se sortir de là, pour que le fils arrête de voler. Parce que sinon le fils va se donner. Vous voyez ? Et c'est ça le problème. Moi je me rappelle très bien, pourtant ça date des années 72-73, quand j'étais en université de médecine. Tous mes copains, tous, pratiquement tous, quand j'étais à l'université à Timon à Marseille, tous mes copains qui étaient en médecine avec moi, tous, pratiquement sans exception, vivaient en concubinage, tous. Les gens universitaires, ils étaient deux, pratiquement tous. Bon, c'est la raison principale pour laquelle je suis parti en courant de médecine, bien que c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais tout petit, parce que je me suis vite rendu compte qu'à force de vivre dans une poubelle, on finit par sentir mauvais, qu'on ne peut pas vivre dans une poubelle sans sentir mauvais, et si je restais entouré constamment de gens qui vivaient des vies débauchées comme ça, j'allais faire comme les autres. Et donc je suis parti en courant. Et je ne regrette pas d'être parti en courant, croyez-moi. J'aurais même dû partir plus tôt. Vous voyez, ça c'est des... le pape donc condamne comme hérétique ceux qui prétendent que l'Église ne peut pas dépasser les bornes de la doctrine et des mœurs et l'étendre aux choses extérieures. Donc, en gros, si vous voulez, le modernisme demande, accepte, tolère le catholicisme à l'intérieur de l'Église, dans le tabernacle et dans la sacristie, point barre. Et éventuellement, sur le parvis de l'Église. Mais le modernisme va dire aux catholiques, dès que vous avez quitté le parvis de l'Église, vous quittez la sphère catholique, vous rentrez dans un monde moderne qui est un monde athée, donc vous ne devez plus prêcher votre catholicisme. Vous ne devez plus prêcher votre catholicisme. Vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement. On voit très bien des politiciens qui ont en principe reçu une éducation catholique dans la vie politique du pays, agir comme s'ils n'avaient, en laissant leur foi catholique dans la poche. Ils s'en occupent pas. Vous voyez ? Alors on continue ces textes. Le pape Pie VI, en 1794, va maintenant condamner ceux qui prétendent que l'évêque a reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs nécessaires pour le bon gouvernement de son diocèse. Qu'est-ce qui peut me dire pourquoi cette proposition est hérétique? Je répète. L'évêque a reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs nécessaires pour le bon gouvernement de son diocèse. Qui peut me dire pourquoi c'est hérétique?
Parce que son autorité, c'est le pape.
Voilà. C'est que l'évêque n'a pas reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs nécessaires pour le bon gouvernement de son propre diocèse. L'évêque a reçu son autorité sur un troupeau déterminé par l'intermédiaire du vicaire du Christ. Donc il a une autorité au-dessus de lui. Voilà ce que dit ici le texte. Le synode déclare être persuadé que l'évêque a reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs nécessaires pour le bon gouvernement de son diocèse, c'est modernistes qui disent ça de l'époque, comme si pour le bon gouvernement d'un diocèse n'était pas nécessaire d'autres règlements supérieurs relatifs soit à la foi et à la morale, soit à la discipline générale, dont la source est dans les souverains pontifes et les conciles généraux. Donc le pape a autorité sur l'évêque. L'évêque n'est pas quelqu'un qui a tous les pouvoirs nécessaires pour le gouvernement de son diocèse. L'évêque a un supérieur au-dessus de lui. Et donc, si un évêque se comporte mal, le pape a le droit de supprimer l'autorité canonique de cet évêque. Oui. Donc, c'est toujours la même idée. On veut que tous les prêtres deviennent indépendants des évêques, que tous les évêques deviennent indépendants des papes, et que chaque pape devienne indépendant des papes qui ont précédé. Et puis, dans l'autre sens, on voudrait que les fidèles soient complètement indépendants de l'autorité de leur pasteur, de leur supérieurs ecclésiastiques. Vous voyez ? Alors, l'Église, attention, l'Église a un pouvoir sur les choses extérieures. Donc, elle a un pouvoir qui doit être étendu aux choses extérieures. Bon, on explique ça avec trois mots tout simples. L'Église catholique, le pape et l'Église catholique aussi ont un pouvoir législatif, judiciaire, coercitif. Pouvoir législatif, le pouvoir de faire des lois. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger selon ces lois. Et le pouvoir coercitif, le pouvoir d'obliger les gens à suivre les lois. Donc le pape a un pouvoir législatif, judiciaire, coercitif pour toute l'Église. L'évêque a un certain pouvoir législatif, judiciaire, coercitif pour toute l'Église, à condition bien sûr que ces lois n'aillent pas s'opposer aux lois générales de l'Église. D'accord ? Donc la source de l'autorité, encore une fois, vous voyez, tous ces modernistes, tous ces protestants, parce que le concile de Pistoia, c'est un concile protestant en fait, donc tous ces conciles, ce concile de Pistoia prétendait que les évêques sont indépendants du pape parce qu'ils ont reçu directement de Jésus-Christ tous les pouvoirs nécessaires pour le bon gouvernement de leur diocèse. Eh bien, c'est faux. Parce que la source est dans le souverain pontife, dans les souverains pontifes. Donc, autre condamnation, pour vous montrer jusqu'où allaient ces condamnations du concile de Pistoia. Donc, cinquième proposition. Le synode invite l'évêque à poursuivre avec ardeur une constitution plus parfaite de la discipline ecclésiastique. Mais c'est pas l'évêque, encore une fois, ce n'est pas l'évêque qui décide ça, c'est le pape. Et donc, le synode protestant, moderniste, voudrait donner à l'évêque un pouvoir contre toutes les coutumes contraires, contre les exemptions et les réserves qui s'opposent au bon ordre du diocèse pour la plus grande gloire de Dieu et la plus grande édification des fidèles. Par là, le synode suppose qu'il est permis à l'évêque d'établir des règlements de par son propre jugement, sa propre volonté, de décréter contre les coutumes, les exemptions, les réserves qui existent, soit dans l'Église universelle, soit dans une province, sans l'agrément et l'intervention d'une autorité hiérarchique supérieure, de qui elles sont venues, par qui elles ont été approuvées et de qui elles obtiennent force. Cette proposition conduit au schisme et à la destruction du gouvernement hiérarchique. C'est une proposition erronée. Donc on n'a pas le droit de dire que l'évêque peut poursuivre, si vous voulez, peut donner une discipline ecclésiastique plus parfaite en étant indépendant du pape. C'est impossible. Oui, et c'est pour ça que nous sommes dans un tel pagaille aujourd'hui. C'est parce qu'on est orphelin d'autorité, justement. Il n'y a plus de pape qui veut agir comme pape. Les papes actuels, depuis la mort du pape Pie XII, ne veulent plus agir comme pape. Ils ne veulent plus donner d'ordre. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la grande liberté. Hein? Qui suis-je pour juger? Ça, c'est la grande phrase de Bergoglio. Est-ce que vous avez entendu une seule fois, Bergoglio rappeler, par exemple, que l'homosexualité est un vice contre nature qui crie vengeance contre les cieux? Est-ce que Bergoglio l'a dit une seule fois? Est-ce qu'il l'a écrit une seule fois dans un texte doctrinal? Jamais. Par contre, il a dit, qui suis-je pour juger? Sous-entendant, je n'ai pas le droit d'entendre. C'est grave ce qu'il dit ça. En disant ça, il dit, En tant que pape, je n'ai pas le droit de décréter que l'homosexualité est quelque chose de mauvais. Parce que chacun peut suivre sa conscience. Vous voyez ? C'est comme un père de famille qui dirait, je ne suis pas d'accord avec le fait que mon fils boive 5 bouteilles de whisky tous les soirs, cependant il est libre. Et donc je le laisse boire ces 5 bouteilles de whisky tous les soirs, parce qu'il est libre, et qu'en tant que grand garçon, il va faire ce qu'il veut de son argent. Et donc je le laisse acheter ces 5 bouteilles de whisky tous les soirs. Bon. Autre condamnation. Les droits que l'évêque a reçus de Jésus-Christ, donc on a déjà expliqué que l'évêque ne reçoit pas ses droits de Jésus-Christ, mais du pape, ce qui n'est pas pareil. Les droits que l'évêque a reçus de Jésus-Christ pour gouverner l'Église ne peuvent être ni altérés ni empêchés. Ça, c'est le conciliarisme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui disent que les évêques sont au-dessus du pape. Par exemple, les américanistes, c'était à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, prétendaient le pape est évêque de Rome. Et c'est pas pour rien que Bergoglio, maintenant, ça se fait appeler évêque de Rome. Mais le pape n'est pas simplement évêque de Rome. En tant qu'évêque de Rome, il est évêque du monde entier. Parce que les modernes vont dire, mais je respecte l'autorité du pape à Rome. C'est ce que faisaient les américanistes qui ont été condamnés par le pape Léon XIII. Ils disaient, le pape est libre de faire ce qu'il veut à Rome. Mais moi, je suis libre de faire ce que je veux en tant qu'évêque dans mon diocèse. Je ne me mêle pas du diocèse du pape à Rome, et le pape ne doit pas se mêler de mes histoires dans mon diocèse, parce que je suis libre de faire ce que je veux dans mon diocèse. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit très bien, c'est même pire que ça, puisque les évêques ne sont même plus libres de gouverner leur diocèse, parce qu'ils doivent passer par les conférences épiscopales. Et les conférences épiscopales n'oseront plus rien faire, parce qu'il faut avoir l'accord des fidèles dans l'église, dans le diocèse, pour faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai déjà donné ces exemples ahurissants de ces aumôniers des lycées autour des années 1968, c'était les années 1968, c'est ça, où les aumôniers disaient aux jeunes dans les aumôneries, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'église? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans l'église? Non pas pour nous dire ce qui vous plaît pas dans l'église, il faut l'accepter, parce que c'est l'enseignement de l'église. Ils vont dire, ce qui vous plaît pas dans l'église, effectivement, vous avez raison, vous avez le droit de penser que ces choses-là ne sont pas bonnes pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec les 10 commandements de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il faille encore suivre les 10 commandements de Dieu? Et ces aumôniers nous disaient, et vous êtes libres, chacun fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas le droit, j'ai entendu des aumôniers dire, Dieu n'a pas le droit de vous imposer les commandements, il faut être d'accord avec les commandements, et d'accord avec l'ordre qu'on reçoit. Dieu n'a pas le droit de nous imposer des commandements qui sont impossibles à tenir. J'ai entendu un prêtre, un curé en Espagne dire ça, mes propres oreilles. Mes fidèles, j'estime que je n'ai jamais le droit de dire à mes fidèles ce qu'ils doivent faire en matière morale, parce que Dieu, par ses commandements, a demandé aux fidèles des choses impossibles à réaliser. C'est pur protestantisme. C'est Martin Luther. D'accord ? Donc, ces gens, ces modernistes, insinuent donc que l'exercice des droits épiscopaux, des droits des évêques, ne peut être empêché ou contenu par aucune autorité supérieure, toutefois qu'un évêque estimera, à son propre jugement, que cela est convenable au plus grand bien de l'Église. Et l'Église enseigne donc cette proposition conduit au schisme et à la destruction du gouvernement hiérarchique. Je fais ce que je veux. Vous me dites, monsieur l'abbé, ça on rencontre ça que chez les protestants, croyez? On rencontre ça partout aujourd'hui. Y compris dans le milieu de la tradition, y compris et surtout dans le milieu de la tradition célébracantiste. Quand un prêtre, non, on la coupe même, un prêtre qui a bien compris ce qui se passe actuellement dans l'Église, on prend et on laisse, par exemple, dans les textes de Pie XII qui sont obligatoires pour l'Église universelle, c'est exactement ce que fait ce prêtre. C'est pour ça que l'Église catholique a dit, attention, ces propositions conduisent au schisme. Quand vous dites, le pape Pie XII, de son autorité, a rendu obligatoire, par exemple, la messe de Saint-Joseph, artisan pour le 1er mai. Bon. Mais, moi, je suis pas d'accord et je refuse cette messe de Saint-Joseph artisan pour le 1er mai. C'est le cas de pratiquement tous les évêques célibacantistes américains, pratiquement tous les prêtres célibacantistes américains. En France, pareil. L'IMBC, c'est comme ça. Pas question, je refuse Saint-Joseph ouvrier. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du schisme pur et simple. Reprenez les propositions que je viens de vous expliquer, condamnées par le pape Pie VI en 1794. Donc, c'est les prêtres maintenant qui vont décider ce qu'ils veulent garder. Je m'excuse, c'est du schisme pur et simple. C'est grave d'être schismatique. Les schismatiques, ils sont membres de l'Église ou non? Les schismatiques sont en dehors de l'Église, attention. On n'a pas le droit de faire ça. De même qu'un pape n'a pas le droit de prendre et de laisser dans l'enseignement de l'Église pendant 20 siècles avant lui, de la même façon, un simple prêtre n'a pas le droit d'en prendre et d'en laisser avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Ils racontent n'importe quoi. Ils apprennent et ils en laissent tout le temps, surtout. Puis quand on vérifie un petit peu les choses, on se rend compte qu'ils racontent un peu n'importe quoi. Et donc ils en font qu'à leur tête sur Pie XII, ils en font qu'à leur tête sur Saint Pie X, sauf quand les réformes de Pie XII les arrangent un peu. Alors quand le pape Pie XII autorise les messes du soir, ça me plaît, j'accepte. Quand le pape Pie XII change les règles du jeûne eucharistique, ça passe depuis minuit à 3h, ça m'intéresse, parce que on est obligé de dire souvent des messes du soir dans l'apostolat, alors ça je suis. Vous voyez? Donc, ce sont des droits faussement attribués, dit le pape, aux prêtres d'ordre inférieur dans les décrets de foi et de discipline. Parce que ces modernistes prétendent que dans les décrets de foi et de discipline, chacun fait ce qu'il veut. L'obéissance, prétendent-ils, n'est pas due aux suggestions et aux ordres des évêques. La réforme des abus touchant la discipline ecclésiastique dépend également de l'évêque et des curés dans les diocèses, dans les synodes diocésains. Sans la liberté de décision, l'obéissance n'est pas due aux suggestions, aux ordres des évêques. Chacun fait ce qu'il veut. Doctrine fausse, dit Pie VI, téméraire, qui laisse l'autorité épiscopale, renverse le gouvernement hiérarchique, favorise l'hérésie. Les hérésies renouvelées par Calvin. Donc c'est du protestantisme. Je fais ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Oui. Alors, il ne faut pas tout mélanger. C'est vrai qu'il y a une liberté physique. Vous êtes libre, physiquement parlant, de prendre l'autoroute à contresens. Vous êtes libre, physiquement parlant. Est-ce que vous êtes libre, moralement parlant, de prendre l'autoroute à contresens? Bien sûr que non. D'accord? Donc, ces doctrines sont fausses, téméraires, subversives de l'ordre hiérarchique, destructives de la fermeté des définitions et des jugements dogmatiques et sont au moins erronées. D'accord? Ensuite, proposition, neuvième proposition. Vous voyez comment le pape, c'est intéressant de voir que le pape Saint Pie X, justement, fait référence à Pie VI pour bien montrer que ces principes qu'il condamne dans Pascendi ont déjà été condamnés avant lui. Il ne faut pas croire que c'est Saint Pie X qui a commencé à condamner toutes ces choses-là. Ça a déjà été condamné largement avant par les autres papes avant lui. D'accord? Donc, le pape a aussi parlé des calomnies, pape Pie VI, contre quelques décisions en matière de foi prises ces derniers siècles. Donc, le synode de Pistoire, donc le synode protestant, représente comme des décrets ces décisions en matière de foi rendues dans ces derniers siècles, le synode les représente comme des décrets émanés d'une église particulière ou d'un petit nombre de pasteurs sans un appui suffisant d'autorité propre à corrompre la pureté de la foi et c'était des troubles imposés par la violence et qui encore récemment ont fait des blessures. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ces gens prétendent que ils sont indépendants aussi en matière de morale. Donc c'est les américanistes condamnés par le pape Léon XIII aux États-Unis qui disaient que aux États-Unis, nous avons un évangile pour nous, qui n'est pas le même évangile que l'évangile de l'autre côté des montagnes. Ils appelaient ça l'évangile, l'évangile des ultramontains. Les ultramontains, c'était quoi? C'était les gens qui étaient de l'autre côté des montagnes. Les montagnes, c'est les Alpes. Donc, quand on parlait des ultramontains à ce moment-là, c'était ceux qui suivaient le pape à Rome. C'est les évêques, ou les prêtres qui refusaient la constitution civile du clergé pendant la Révolution. C'est la même chose, d'accord? Alors, autre phrase de Piscis, vous voyez, j'explique un petit peu ces textes, c'est un peu compliqué, vous voyez où est-ce qu'il est, mais je pense que c'est important de comprendre ça. Hein. Dernière phrase de cette partie que je vais vous expliquer de Auctorem Fidei. L'Église doit être considérée comme un corps mystique, formé du Christ comme tête et des fidèles qui sont ses membres par une union ineffable en vertu de laquelle nous formons avec lui un seul prêtre, une seule victime, un seul adorateur, parfait de Dieu le Père en esprit et en vérité. Voilà que ces gens disent que le Christ, les fidèles, sont un seul prêtre, une seule victime. C'est littéralement la divinisation de l'autorité des hommes. Il n'y a plus aucune distinction de hiérarchie entre ceux qui sont au-dessus, les évêques, le pape bien sûr, les évêques, les prêtres et les fidèles. Parce que nous sommes tous membres de la même famille du Christ et donc nous devons partager l'autorité avec les évêques, partager l'autorité avec le pape et c'est nous qui allons décider par le nombre.
C'est protestant.
Hein. C'est du protestantisme pur et simple. C'est du protestantisme pur et simple. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans l'Église catholique, absolument partout. Comprise en ce sens que seuls font partie les corps de l'Église, les fidèles qui sont de parfaits adorateurs, en esprit en vérité, cette doctrine est hérétique. Vous voyez ? Encore une fois, ce concile de ce texte, Auctorem Fidei, c'est des textes évidemment infaillibles, Pie VI, 1794, du 18e siècle, sont des textes qui ont été écrits plus d'un siècle avant le texte de Saint Pie X. Et donc Saint Pie X reprend des textes qui ont été écrits à la fin du XVIIIe siècle pour bien montrer que déjà à la fin du XVIIIe siècle, à cause du protestantisme, à cause de la réforme, à cause de l'humanisme, à cause de la Renaissance, il y avait déjà des gens qui voulaient tout changer dans l'Église. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Et donc, si je suis toutes ces idées qui sont condamnées par toute l'Église, cela entraîne la destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, rendre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ absolument impossible. Rappelez-vous Elena Blavatsky, la fondatrice des théosophes, la théosophie de New York, qui disait « Nous allons rendre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ tellement impossible sur la terre que ce dernier écœuré s'en aille. » Écœurer son âme. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, la seule solution, c'est un retour à l'enseignement de l'Église. Qu'est-ce que l'Église catholique a toujours enseigné ? Oui ? Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut, à cause de ça, à cause du fait qu'on veut être traditionnaliste, et je dirais, vouer aux hégémonies tous ceux qui ne pensent pas comme nous, ce n'est pas du tout ça. Mais il y a une vérité catholique. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Vous voyez ? Alors avançons. Donc de l'Église, le modernisme va maintenant attaquer l'autorité ecclésiastique. On a déjà vu un petit peu ça. Donc Saint Pie X va reprendre, si vous voulez, tous les étages de la société pour montrer que le modernisme va passer chez les papes, va passer chez les papes, chez les évêques, chez les curés, chez les laïcs, chez les chefs de famille, chez les enfants. Tout y passe. Que dire alors, dit Saint Pie X, de l'autorité ecclésiastique, dont justement il n'est pas un seul A qui ne se traduise à l'extérieur. Il faudra donc qu'elle lui soit totalement assujettie. Donc, Saint Pélisse dit, pour le modernisme, l'autorité ecclésiastique doit être totalement assujettie à l'État. L'État, donc, supérieur à l'Église. Hein? Supérieur à l'Église. C'est l'évidence de ces conclusions qui a amené bon nombre de protestants libéraux à rejeter tout culte extérieur, même toute société religieuse extérieure, et à essayer de faire prévaloir une religion purement individuelle. Si les modernistes n'en sont pas encore arrivés là, ce qu'ils demandent en attendant, c'est que l'Église veuille, sans trop se faire prier, suivre leur direction et qu'elle en vienne enfin à s'harmoniser avec les formes civiles. Vous voyez ? Donc toujours pareil, l'État est supérieur à l'Église. Telles sont leurs idées sur l'autorité disciplinaire. Vous voyez, on voit très bien que c'est la destruction totale du principe d'obéissance, du principe d'autorité. Plus de principe d'autorité, et donc tout s'écroule. Vous voyez ? C'est pour cela que les prêtres modernes, quand vous leur parlez du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ils refusent catégoriquement ça. Monseigneur Lefebvre nous avait donné comme exemple, j'utilisais ça dans les lectures à table pendant les retraites, Monseigneur Lefebvre nous donnait comme exemple dans les congrès eucharistiques de Melbourne, je ne sais plus quelle année, c'était aux deux années 80-84, et au dernier congrès eucharistique de Melbourne, congrès eucharistique, donc centré sur la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a même pas eu possession du Saint-Sacrement. Alors, s'il y a un endroit où il faudrait avoir la possession du Saint-Sacrement, c'est bien un congrès eucharistique. Pas de possession du Saint-Sacrement. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas déplaire aux protestants. Il ne fallait pas déplaire aux protestants, il ne fallait pas déplaire aux juifs, il ne fallait pas déplaire aux musulmans, et donc il n'y avait pas de possession du Saint-Sacrement. Vous voyez ? C'est pour ça que l'Église, justement, chante hein, « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ». Christus vincit, le Christ a vaincu, Christus, le Christ a vaincu. C'est quoi hein? Christus vincit, Christus, j'oublie un mot, Christus imperat, le Christ a vaincu, que le Christ règne, oui pardon, régnat, le Christ commande. Imperat, imperare, ça veut dire commander en latin. Donc le Christ a un droit de commander dans son armée. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui veut simplement être que les fidèles soient catholiques le dimanche à 10h-11h30. Que les fidèles sont comme ça. Ils pensent qu'ils sont catholiques, doivent être catholiques simplement le dimanche. Attention, un catholique a le devoir d'État de vivre son catholicisme absolument tout le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on retrouve les mêmes erreurs dans le sillon de Marc Sanguinet. Pour ça, j'ai commencé par tous ces grands documents-là. Relisez notre charge apostolique de Saint Pie X, et vous verrez exactement les mêmes choses. Pourtant, c'est écrit après. C'est écrit en 1910. Oui. Donc, nulle société religieuse, disent les modernistes, n'a de véritable unité que si la conscience religieuse de ses membres est une, et une aussi la formule qu'elles adoptent. Donc il faut une espèce d'union entre toutes les religions. C'est le gouvernement mondial, on a plein dedans. Donc à Davos, ils veulent le gouvernement mondial, et à Bergoglio, à Rome, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un gouvernement mondial aussi au niveau de l'église catholique. Ils veulent que l'église catholique devienne une église mondiale. Non pas pour convertir les gens à l'unique vrai Dieu, mais pour que tout le monde puisse joindre cette église sans perdre son identité propre.
Certains disent qu'il a fait Klaus Schwab évêque.
Comment ?
Je ne sais pas. Certains disent qu'il aurait fait Klaus Schwab évêque.
Je ne vois pas comment elle peut faire un coup de choix, je ne sais pas si elle est catholique. Je ne sais rien, je n'ai pas entendu ça. D'accord ?
Ils vantent le mérite de la...
Voilà. Donc, je relis un petit peu ces textes qui sont un peu compliqués. Là, on retombe sur des parties assez compliquées de l'encyclique. J'explique un peu comme je peux. Cette double unité requiert une espèce d'intelligence universelle. Donc ce soit l'office de chercher de déterminer la formule répondant le mieux à la conscience commune, qui a en outre suffisamment d'autorité, cette formule une fois arrêtée, pour l'imposer à la communauté. Donc, il faut une règle qui réponde à la conscience commune. D'accord ? C'est-à-dire qui soit acceptable par toute la communauté. Une règle qui soit acceptable par les protestants, par les modernistes, par les catholiques, par les juifs, par les... Donc c'est ça, c'est l'œcuménisme complet. D'accord ? De la combinaison et comme de la fusion de ces deux éléments, l'intelligence qui choisit la formule autorité qui l'impose résulte pour les modernistes la notion de magistère ecclésiastique. Donc le magistère ecclésiastique pour un moderniste n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, de l'autorité supérieure, c'est-à-dire de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui travaille par son infaillibilité des évêques sur les évêques, justement, l'autorité vient d'en bas. Donc il faut, dit les modernistes, il faut se subordonner, se plier aux formes populaires. C'est donc le peuple qui décide, c'est le pouvoir du nombre. Pouvoir du nombre. Alors, ensuite, autre chose que les modernistes n'acceptent pas, condamner, proscrire un ouvrage à l'insu de l'auteur sans explication de sa part, sans discussion, cela véritablement confine à la tyrannie. Donc le pape rappelle que les modernistes prétendent que l'index des livres défendus est un acte tyrannique, qu'on n'a pas le droit de condamner un auteur sans entendre. Ça, encore une fois, j'ai remarqué, nos fidèles ont du mal à comprendre ça. Lorsque l'Église condamne un livre, tel livre vient de paraître, il y a des grosses hérésies dans le livre. Le Saint-Office, à l'époque c'était comme ça au Moyen-Âge, ou même jusqu'aux années 1930, hein, l'Église disait, ce livre contient des hérésies. Donc, ne peut pas être lu par les catholiques jusqu'à ce qu'il soit corrigé de ces hérésies. Bon. Dans certains cas, l'Église enseignait tel livre doit être détruit par le feu parce que tout est mauvais dans ce livre. Bon. Quand l'Église dit je condamne tel livre parce qu'il y a dans ce livre des erreurs dogmatiques graves, l'Église n'a pas besoin de parler avec l'auteur de ce livre pour lui permettre de se défendre. Monsieur, vous avez écrit que 2 plus 3 ça fait 6. Vous avez peut-être les mêmes meilleures intentions du monde, mais vous avez dit que 2 plus 3, ça fait 6. 2 plus 3, monsieur, ça fait 5 et pas 6. Donc c'est faux. Donc je vous interdis de publier votre livre tant que ça n'a pas été corrigé. Oui. Alors, condamner et prescrire un ouvrage à l'insu d'un auteur sans explication de sa part, sans discussion, cela véritablement confine à la tyrannie. Donc les modernes n'arrivent pas à comprendre qu'un livre peut être condamné par l'Église sans même que l'auteur de ce livre ait été consulté par homme. Parce que c'est l'hérésie enseignée qui est condamnée, pas le bonhomme. D'accord ? En somme, ici encore, il faut trouver une voie commune, c'est le but du modernisme, où soient serrés tout ensemble les droits de l'autorité et ceux de la liberté. Ils veulent une église dans laquelle les droits de l'autorité soit respecté, mais en même temps que la liberté individuelle soit réservée, soit respectée. On va où comme ça ? C'est impossible. Impossible de vivre comme ça. Et donc, à ce moment-là, que fera le catholique ? Il se proclamera hautement, très respectueux de l'autorité, mais sans se démentir le moins du monde, sans rien abdiquer de son caractère et ni de ses idées. Donc on va prétendre respecter les papes, respecter l'autorité de l'Église, mais dans la pratique, on fait ce qu'on veut. La pratique, on fait ce qu'on veut. C'est exactement ce qui se passe et ce qu'ils veulent imposer à l'Église. Alors, ils vont plus loin que ça. Les modernistes vont jusqu'à dire que, du moment que sa fin est toute spirituelle, l'autorité religieuse doit donc se dépouiller de tout cet appareil extérieur, de tous ces ornements pompeux par lesquels elle se donne comme un spectacle. En quoi ils oublient que la religion, si elle appartient à l'âme proprement, n'y est pourtant pas confiné que l'honneur rendu à l'autorité rejaillit sur Jésus lui-même qui l'a institué. Donc les modernistes veulent la suppression de tout l'appareil extérieur, de tout l'apparat extérieur de l'Église. Bon, ils ne peuvent pas supporter les messes, par exemple, où il y a beaucoup de monde, où il y a une procession, où il y a une règle à suivre. Vous voyez ? Les modernistes disent tout le temps, je fais ce que je veux. D'accord ?
Les apparats du pape aussi.
Comment ?
Les apparats du pape.
Ben oui. Et c'est bien pour ça qu'ils ont supprimé pratiquement tous les signes qui est aider les jeunes, les enfants à comprendre l'importance de la Sainte Cour, de la Sainte Eucharistie, que notre Seigneur Jésus-Christ était présent dans chacune des parcelles de la Sainte Eucharistie. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ont supprimé la patène de communion, par exemple? Pas pour rien. La patène de communion, ce petit plateau doré qu'on place sous le menton des gens qui ont été communis, au cas où une hostie tombe se détache du doigt du prêtre parce qu'il a pris deux par erreur, qui sont collés l'une à l'autre, eh bien, il faut faire attention à tout ça, vous voyez. Pourquoi l'Église a supprimé tout ça? Parce qu'elle veut, l'Église moderne a supprimé ça, parce qu'elle veut la perte de la foi en la présence réelle. C'est pour ça qu'ils ont institué la communion dans la main, c'est pour ça qu'ils ont complètement changé l'Église catholique, l'enseignement de l'Église catholique, le magistère catholique, la liturgie catholique, pour que justement les gens soient complètement déconnectés du réel.
La distribution de la communion par les laïcs.
Voilà. Ils appellent ça l'hospitalité eucharistique. Ils veulent pratiquer l'hospitalité eucharistique. Vous voyez ? C'est bien l'hospitalité eucharistique. L'évêque d'Albi la pratique de façon remarquable avec moi. L'évêque d'Albi, quand il a su que je voulais ouvrir une chapelle à Tanus, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a publié un texte, je vous l'ai déjà dit, il a publié un texte dans lequel il disait que cette nouvelle église qui s'ouvrait à Tanus le 15 août n'était pas catholique et que le prêtre qui desservait la messe n'était pas catholique non plus. Il ne m'a jamais parlé, il ne s'est jamais adressé à moi, il ne m'a jamais téléphoné, jamais écrit une lettre, rien du tout. Il ne sait même pas qui je suis. Mais ça ne fait rien. On prétend que je ne suis pas catholique. Mais si c'était une église musulmane qui s'était ouverte,
une mosquée
musulmane, ou un temple bouddhiste, ou un
protestant.
Ou un temple protestant, est-ce que vous croyez que l'évêque aurait répondu le même genre de discours? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous pouvez aller n'importe où, sauf chez les traditionnalistes. D'accord? Alors, vous voyez, toutes ces choses-là.
Ça m'a fait une bonne publicité.
Ben oui, ça m'a fait une bonne publicité. Beaucoup de gens sont venus chez nous dimanche, samedi et dimanche, jeudi, jour de l'Assomption, puis dimanche suivant. Beaucoup de gens sont venus, justement, attirés par ces déclarations de l'évêque. Ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une chapelle qui existait. Donc, je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui continuent de nous envoyer des dons pour nous permettre de terminer les derniers travaux de l'Église. L'Église est magnifique. Tous ceux qui l'ont vu, c'est un jugement de tout le monde. Tous ceux qui l'ont visité m'ont dit la même chose. Vous savez, elle est splendide. C'est vrai que notre Église de Tanus est très très belle avec la grâce du bon Dieu. Mais, et il faut remercier tous ceux qui ont permis tout ça, parce que sans les bienfaiteurs, on ne pourrait rien faire. Bon. Alors maintenant, le deuxième projet qu'on voudrait bien arriver à mettre en place. Bon, d'abord, on va terminer les derniers travaux. Un petit excursus là pour répondre à des gens qui me posent des questions sur Internet. J'ai pas le temps de répondre à chaque personne. Donc, on va terminer les derniers travaux. Il reste à faire un drain le long d'un mur pour éviter les suintements qui passent après dans la salle de sous-sol. Il reste à faire le parking. On va voir si on peut arriver à empirer ce parking pour empêcher la boue l'hiver, parce qu'actuellement le parking est en terre, donc ça va devenir très beau l'hiver, dès qu'il y a décorant la pluie. Et il faut terminer la salle du sous-sol, qui va devenir une cuisine aussi, une cuisine et une salle de conférence. Mais il faut qu'on arrange un peu tout ça. C'est pas terminé, la cuisine n'est pas encore posée, on a posé simplement les toilettes, c'est tout. Une fois que le grand projet chapelle sera terminé, ça devient la chapelle Dame Marie, et ici chez moi à Padiès, nous avons transformé la chapelle ancienne en un oratoire, un simple oratoire. Ici c'est l'oratoire, ici je donne ce cours dans l'oratoire, et donc les messes ont toujours lieu à l'oratoire en semaine, à 8h en général, sauf les messes du dimanche et les fêtes d'obligation qui auront lieu à la chapelle Dame Marie, à Tanus. Alors maintenant, avec la grâce du bon Dieu, on voudrait bien commencer la deuxième étape. La deuxième étape, ce sera la création, j'espère, si le bon Dieu le permet, on voudrait bien construire maintenant une maison de retraite. Une quinzaine de chambres toutes simples, pour que je puisse avoir une indépendance et pouvoir prêcher quand je veux. Actuellement, je suis bloqué dans les prédications que je donne des exercices Saint-Ignace, parce que je ne peux pas louer quand je veux. Personne qui me loue à l'Éderg, près d'ici, donc la frontière entre l'Aveyron et le Tarn. laisse pas prêcher quand même. Par exemple, je ne peux pas prêcher en juillet, je ne peux pas prêcher en août, parce que je ne peux pas louer le gîte en juillet et août. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, ce serait beaucoup plus simple pour moi et beaucoup moins fatigant si je pouvais avoir peut-être un peu moins de retraite, mais prêcher pour une quinzaine de personnes. Donc là, le but, c'est d'arriver maintenant à construire une quinzaine de chambres, toute simple. Hein, vraiment, simplicité maximale. En tout cas, il n'y aura pas d'eau dans chaque chambre. Il y aura un bloc douche, un bloc toilette, un bloc lavabo. Mais il n'y aura pas d'eau dans la chambre, parce que là, si on met de l'eau dans chaque chambre, alors là, ça fait immédiatement décoller tous les prix. Et donc, je vais suivre la même règle que j'ai suivie pour la construction de la chapelle d'Ave Marie à Tanus. Et je ne me lance pas là-dedans sans avoir un minimum. Donc, c'est ce que voulait Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre exigeait, lorsqu'on voulait, un prieur voulait se lancer dans la construction d'une chapelle, construction d'un bâtiment, etc., qu'on ait au départ la moitié du prix, du prix que va coûter la rénovation de ce bâtiment. Et bien là, c'est pareil. Donc, j'ai eu ce don extraordinaire qui m'est tombé dessus pratiquement 3 ou 4 jours après que nous avions décidé de faire la chapelle à Tanus. Et donc, ce don qui est arrivé tout à fait au début, avant même que j'ai pris une décision publique de faire les travaux, m'a montré que mon Dieu permettait ça. Et effectivement, on a trouvé après la deuxième part moitié qu'il fallait. Donc, il fallait trouver la même somme pour justement finir de payer tout. Et mon Dieu s'est servi de ça. Et ça va être la même chose avec la maison de retraite. Pour que la maison de retraite puisse voir le jour, ben, il faudrait que le bon Dieu permette justement qu'on ait des bienfaiteurs qui nous aident à couvrir les premiers frais pour qu'on puisse se lancer là-dedans. Donc, priez pour ça, pour que la volonté du bon Dieu se fasse. Donc, comme j'ai encore 3-4 minutes, là, je vais avancer un petit peu là-dedans, dans ces textes. Donc, conclusion de Saint-Pédis pour toute cette partie. Il faut trouver une voie moyenne où soient assurés tout ensemble les droits de l'autorité et ceux de la liberté. On veut bien obéir à un supérieur à condition d'être libre. J'obéis à papa et maman à condition que papa et maman me demandent quelque chose qui me plaise. J'obéis à papa et maman à condition que papa et maman me demandent quelque chose qui convient à ma façon de voir les choses. Je suis d'accord avec l'ordre, donc j'obéis. Eh bien, l'obéissance, ça ne marche pas comme ça. On peut pas assurer tout ensemble les droits d'autorité et ceux de la liberté. Parce qu'enfin, face à l'autorité, en matière d'obéissance, il n'y a plus de droit de liberté. La liberté s'arrête au niveau de l'obéissance. Parce que si chacun peut en faire à sa tête et suivre sa volonté propre, il n'y a plus d'église catholique. L'église catholique est détruite complètement par le libre examen. Donc je répète cette phrase qui est importante. Il faut trouver une voie moyenne où soient assurés tout ensemble les droits d'autorité et ceux de la liberté. En attendant, que fera le catholique? Il se proclamera hautement, très respectueux de l'autorité, mais sans en démentir le moins du monde, sans rien abdiquer de son caractère et de ses idées. Je respecte l'autorité qui est au-dessus de moi, mais je sais ce que je veux. J'en fais qu'à ma tête. Hein? Je respecte le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais je fais ce que je veux. Et c'est ce qu'ils font dans l'église. Beaucoup de célébrantistes sont comme ça, c'est terrible. J'en fais qu'à ma tête tout le temps. Oui. Alors, vous voyez, tout ça, encore une fois, toutes ces horreurs qu'explique le pape Saint Pie X en partant de ce texte de Pie VI, la Constitution Auctorem Fidei. Donc, ce que fait le pape là, c'est bien montrer que la liberté nous demande librement de respecter le principe d'autorité. D'accord? Et si je détruis le principe d'autorité, c'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui disparaît. Et si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ disparaît, c'est toute la société catholique qui s'écroule. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire que, enfin, oui, cette partie-là, on tombe là dans une partie un peu compliquée, un peu difficile. Les gens nous disent, vous savez, j'ai essayé de lire, Pagendie de Saint-Pédis, c'est vraiment trop compliqué. Je vous conseille de relire Pachin dit après moi, c'est-à-dire laissez-moi vous expliquer une certaine partie de Saint-Bénis, de la chasquille de Saint-Bénis, après vous pouvez revenir sur la partie que j'ai déjà expliquée. J'espère qu'à ce moment-là ça viendra plus clair. D'accord. Priez aussi pour les premiers mariés qu'on a eu à la chapelle de Tanus. Donc aujourd'hui j'ai fait mon premier mariage dans la nouvelle chapelle qui était splendide. J'avais laissé ces gens, ce mariage dans l'intimité, et j'avais laissé ces gens choisir ou l'oratoire de Padiès et la chapelle de Tanus. Ils ont tous choisi, ils ont immédiatement choisi Tanus parce que la chapelle est tellement belle, ils voulaient être mariés là-bas. Donc ils sont mariés cet après-midi, donc priez bien pour eux. Voilà. Donc, on va arrêter là, ça fait une heure et demie que je vous parle. Donc, avec la grâce du bon Dieu, prochain cours, mercredi prochain. Donc, je reviens lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Donc, dans quelques jours, je monte sur Andorre pour ma visite mensuelle à Andorre. Lundi, mardi, mercredi, je monte sur Nantes. Mais je suis simplement Nantes, c'est tout. Je serai revenu dès mercredi soir et j'espère revenir à temps pour vous donner le cours du mercredi. Mercredi prochain. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens.
Veillez sur nous.
Saint Pédis. Saint Joseph. Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.